13h.
Hey, willkommen bei Omni. Hey, willkommen bei Omni. Let your gun and baby, they hold on, they gun and baby. Let your chum woman, mama gun and baby. Un embamo, mama non baby. Un embamo, mama non baby. Hey hey, me ba dog rebel, they hold on, me ba dog rebel. Hey hey, me ba dog rebel, un bama bula, mama gun and baby. Me go bad boy, me go good man. Un em bang a mo, un em bang baby. Un em am shooting baby, me gunning baby. No man in on me, gunning baby. Un em am shooting baby, me gunning baby. No man in on darling, me gunning baby. Un em bang a mo, my man on baby. Un em bang a mo, my man on baby. Un em am shooting darling. Gunning baby, no man in all darling, but gunning baby. Woman we am shooting darling, gunning baby. No man in all baby, but gunning baby. Un em bang a mo, mama long baby. Un em bang a mo, mama long baby.
Oh baby, gonna bang on. Oh baby, gonna
and my mom, they just told me. Ah.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 972, en ce samedi 14 novembre. Je pense qu'on a tous la gueule de bois après ce qui s'est passé hier soir. On vient d'entendre Roland Chakunte, extrait de son tout nouvel album, donc qui s'appelle Ngeme and Smiling Blues chez Tupelo Records. Un album sublime, un album superbe que on n'a pas hésité. Toute l'équipe de Sweet Home Chicago s'est mis d'accord pour le mettre disque du mois, coup de cœur du mois, monsieur Roland Chakunte. On l'a vu au téléphone il n'y a pas très longtemps, Roland, vraiment un disque somptueux. On continuera de le découvrir au cours de cette 972e émission. Et puis, bien sûr, dans 15 jours, je suis en direct live sur le 666 avec mon ami Laurent Choubrac. Ça va, Laurent ? Ah, bah, si ça marchait, ça serait mieux. Figure-toi que ça marche pas. Il y a encore quelqu'un qui a dû appuyer sur le mauvais bouton au mauvais moment. On va essayer de. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que comme ça va aller mieux.
Est-ce que là, ça marche ?
Voilà, voilà, il suffisait d'appuyer sur le bon bouton.
Voilà, il suffisait d'appuyer sur le bouton. Bah, salut Marco, salut à toutes et à tous. Ouais, comme tu dis, drôle de journée, quoi. Hein.
Pas très facile, voilà, d'intervenir, mais en même temps, je me souviens de ce qui s'est passé au mois de janvier. J'avais un petit peu hésité avant de revenir faire de la radio, mais je me suis dit, bah, finalement.
Oui, et puis on va pas changer nos habitudes.
Hein. Oui. Sinon, on donne raison, à ceux qui ont créé tous ces troubles là pour.
Tout à fait. Voilà. Donc, je suis là normalement avec l'ami
Jean-Christophe qui va arriver.
Va pas tarder pour vous présenter une chronique sur un certain Joe Cocker.
Voilà, un garçon qui nous a quitté il y a quelques mois de cela et puis qui voit se multiplier les hommages. Joe Cocker, un grand du rhythm and blues, du rock, du blues aussi.
Parmi
les acteurs du British Blues.
Grand admirateur de Ray Charles, mm-hmm. entre autres, à qui il le rendait bien d'ailleurs. Et, donc voilà, on va parler un peu de ce monsieur-là, diffuser quelques titres de sa très longue discographie. Et puis Jean-Christophe en parlera encore beaucoup mieux que moi, puisque c'est une encyclopédie sur pied.
Vous compléterez, toi et Jean-Christophe.
Voilà.
Voilà, on parlera de Joe Cocker au cours de cette première heure. Et puis en deuxième heure, vers 14h30, j'appellerai Fred Delforge, qui a plein de choses à vous dire au nom de France Blues et puis de plein d'autres choses. Il va vous parler également de Roland Chakunte pour une raison que vous saurez tout à l'heure, hein, en continuant d'écouter Sweet Home Chicago.
Parlant de Roland Chakunte, je regardais, je jetais un œil à la pochette, il y a du beau monde.
Il y a un linge incroyable. Hein, tu as Mick Ravassa comme d'habitude, Johan Dalgard,
Kim Yarbrough à la base,
Larry Crockett,
Christophe
Gaillot. Enfin, voilà, il y a toujours beaucoup de monde qui intervient autour de Roland. Et n'ayons pas peur de le dire, à mon avis, c'est un petit chef-d'œuvre, hein, ce Ngeme and Smiling Blues. Voilà Jean-Christophe qui sonne, on est en direct live dans la radio.
On va le chercher.
Tiens, ça c'est un morceau qu'on va dédicacer à Jean-Christophe, parce que je sais qu'il adore, pendant qu'il arrive dans le sud. Voici We Shall Overcome.
Deep in my heart.
Shall Overcome, voilà, ça a été enregistré il y a une bonne douzaine d'années sur un album qui s'appelait Saved chez Northern Blues, le label canadien, et c'est signé de tous les artistes, Northern Blues Gospel All Stars. Notre ami Jean-Christophe est arrivé dans le studio de Triple Six, tu vas bien?
Oh, ça va super, ça va toujours bien quand on se voit, puis ça fait plaisir de se voir pour se tenir chaud dans ces circonstances.
Dans des circonstances très très particulières, des circonstances de deuil national, il faut le dire. Maintenant, ça y est, notre président l'a décrété. Je crois qu'aujourd'hui, demain, dimanche et lundi, ça sera des journées un petit peu particulières à vivre. Mais je crois qu'avant que certains ne pensent à attiser la haine, il faut d'abord se recueillir. Je crois que le temps du deuil est là. Et puis... peut-être aussi préparer la paix, il serait temps. Enfin, je sais pas, les garçons.
What's so funny about peace, love and understanding, comme disait l'autre.
Comme disait qui déjà?
c'est assez rigolo parce que je me faisais la remarque, puisqu'on fait un truc sur Joe Cocker, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'époque où moi je l'ai découvert, c'est-à-dire à l'époque de Woodstock, ce qui donne une approximation à ceux qui ne connaissent pas mon âge.
Tu avais une dizaine d'années à l'époque.
J'étais un petit peu plus vieux quand j'ai découvert Woodstock, j'en avais 12.
Ouais.
Et en fait, c'était bien cette époque bénie, mais ça n'a pas duré longtemps quand même. Donc voilà.
Les années fin 60, début 70, ça correspond à un certain idéal. Je crois que certaines personnes continuent à vivre un peu dans cette utopie, on va dire.
Bon, après, ce qui se passait dans le monde n'était pas joli non plus, quand même. Faut arrêter de rêver d'être dans un monde de bisounours. Il y avait des espoirs. Bon, là, on est peut-être plus dans le désespoir. C'est quand même assez compliqué. C'est drôle parce que j'ai reçu un texto de mon fils ce matin, qui est aux antipodes depuis, et qui me dit finalement, je sais pas vraiment si j'ai envie de rentrer en France, c'est forcément, et à la fois inquiétant, et puis bon, pour ce qui s'y passe.
Déjà, savoir si c'est possible, parce qu'il paraît que les frontières sont plus que surveillées, voire bouclées.
Il va pas rentrer tout de suite, et puis bon, ils vont quand même le laisser passer, normalement. Il est armé que d'une seule canne à pêche, donc ça devrait pouvoir le faire.
Et d'une basse acoustique.
Donc, il suffit qu'ils ouvrent, ils verront bien que. Ouais. Voilà.
Ce serait bien que. Là, on va parler en tant que musicien, hein, les amis. Ce serait bien que ça dégoûte pas les gens d'aller voir des artistes sur scène, quand même, au bout d'un moment. Parce que ce qui s'est passé au Bataclan hier soir à Paris, c'est dramatique, mais ça reste tellement exceptionnel, tellement un épiphénomène qu'il faudrait pas non plus que les gens généralisent.
Non, moi je sais que j'y vais ce soir, puisque je vais voir...
Au Bataclan,
pas au Bataclan, mais je vais voir Eric Bibb ce soir.
Ah oui, à la Traverse.
Voilà, à la Traverse, donc jusqu'à preuve du contraire, je crois pas que la Traverse va fermer ce soir, bon, je verrai bien. Mais oui, on va pas s'empêcher d'aller au concert, on va pas s'empêcher de vivre, ça c'est clair.
C'est un peu pour ça qu'on est là aussi d'ailleurs, à la radio. Joe Cocker, ça sera dans quelques minutes. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'abord d'un disque qui n'a rien à voir, mais le titre s'appelle Freedom. C'est extrait de Sons of the Blues, la Tour Edition, autrement dit la version live de l'album de Manu Lanvin, The Devil Blues. Manu Lanvin vient de ressortir son Sons of the Blues en studio, plus 4 titres enregistrés live, pas plus que ça, 8 titres enregistrés live en DVD à Cognac, et puis également quelques bonus tracks, bootleg sessions, dont ce Freedom. Voici Manu Lanvin, et on redécouvrira tout à l'heure la discographie de Joe Cocker grâce à vous, Laurent et Jean-Christophe. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child alone. Away from my hometown. Sometimes I feel like a mama's gone. Sometimes
Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Alone. Way from my hometown. I said freedom, 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 freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Alone. Way, hey, hey, from my hometown. I said freedom, 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 freedom. Freedom, freedom. Clap your hands, 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 clap your hands. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. Freedom.
Voilà, freedom, ou autrement dit, like a motherless child. Monsieur Manuel Envin, c'était pas Joe Cooker, mais bon.
On parlait de Woodstock, ça nous rappelle des souvenirs de Richie Evans, c'est ça qui...
Evans, oui, c'est lui qui avait ouvert d'ailleurs.
Et qui chantait ça.
Oui, ouais. Et qui chantait Freedom. Et puisque tu parles de Richie Evans, je me suis fait la remarque pas plus tard qu'hier à moi-même. En écoutant Joe Cooker dans la bagnole, je sais plus quel morceau j'écoutais. Je me disais quand même, je pensais à Richie Evans. Il y a une similitude dans le grain
d'ailleurs,
de la voix.
Sur le premier ou le deuxième album de Richie Evans, tu as une version de Just Like a Woman qui est assez proche de celle que Cooker a fait sur son premier disque, et c'est vrai qu'ils ont une vraie similitude de répertoire, d'époque. J'adore Richie Evans, moi, c'est un gars extraordinaire.
Il nous a quitté il n'y a pas très longtemps, lui aussi.
Il y a quelques années,
assez rapide. 2 ans peut-être.
Ouais, c'est ça.
Et puis Joe Cooker, qui est bien connu pour ses reprises, d'abord, j'ai envie de dire, parce que, on va dire, les morceaux, les singles qui se sont le plus vendus dans sa discographie. Je parle des spécialistes, parce que je n'ai pas repotassé cette semaine.
Tu parles d'un spécialiste et un assistant.
Non, mais effectivement, Joe Cocker se rend célèbre par ses reprises, parce qu'on en parlera tout à l'heure, c'était pas vraiment principalement un compositeur, même s'il écrit quelques titres, mais c'est là aussi où tu vois la classe des stylistes et des grands interprètes. Si tu réfléchis un petit peu, alors nous, avec Laurent, à notre modeste échelle, on est auteur-compositeur, et c'est vrai qu'on a des auteurs-compositeurs qui sont nos idoles, mais qui sont les plus grands artistes du siècle, 20e siècle.
Pour toi, ce sont les interprètes, c'est ça?
Non, je sais pas, mais je te donne des noms, je te donne Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles. Voilà, et ces gens-là, qu'est-ce que c'est? Ces gens-là sont des interprètes.
Bien sûr.
Et c'est des interprètes fantastiques, et leur talent a été... et tu te dis, quand tu passes par-delà le fait de ne pas composer ton répertoire, mais t'approprier avec une telle puissance le répertoire des autres, tu montres ce qu'est un véritable interprète, quoi. Enfin bon.
Voilà, mais en tout cas, voilà, Joe Cooker, une voix...
Cooker,
toujours imité, jamais égalé.
Je vais juste faire une digression, justement, parce que tu parles compositeur et interprète. Je pense à quelqu'un comme Bob Dylan, qui est un compositeur, bien entendu, auteur-compositeur, peut-être auteur même avant compositeur, encore que je ne sais pas. Beaucoup de gens ont du mal à écouter Dylan quand il chante, lui, parce qu'il a une voix particulière, parce qu'il a une interprétation un peu particulière, parce qu'il a des instrumentations des fois un peu simplistes. N'empêche que ce qui est très intéressant, c'est que justement tu reprends les chansons de Dylan chantées par des tas d'autres, par des vrais interprètes, enfin des grands interprètes, et là d'un seul coup ça sublime la chose. Donc je trouve ça très intéressant de dire être interprète, oui, qu'interprète, c'est peut-être un peu dommage, n'empêche que quand tu t'appropries la chose et que t'en fais, tu la sublimes, c'est quand même très très intéressant. Quoi. Et ce qui est le cas de Joe Cooker, dont nous allons parler.
Tu évoquais tout à l'heure Jean-Christophe Ray Charles. Si on parle de Unchained My Heart, je peux te dire qu'il y a à peu près plus d'une personne sur deux qui va te dire que c'est de Joe Cooker.
Ouais, mais oui. Mais bon.
Est-ce que c'est grave?
Non, c'est pas grave, bien sûr que non. Ce qui compte, c'est la postérité de la chanson. Et ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert Ray Charles grâce à Joe Cocker. Voilà. Mm-hmm. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert Percy Mayfield grâce à Ray Charles. Tu vois, qui a écrit une chaîne meilleure, si je ne me trompe pas.
Tout comme ceux qui découvrent Otis Rush grâce à Led Zeppelin, etc.
Exactement, etc., tout à fait.
Voilà, alors on démarre comment? Tu voulais faire dans le chronologique
Ouais, un peu chronologique. On va partir avec Laurent, puis on va discuter librement ensemble finalement. L'idée, c'est surtout de passer un petit peu en revue la carrière très rapidement, très sommairement, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours magistral sur Joe Cocker, mais surtout d'écouter des morceaux sympas, puis de voir un peu le chemin parcouru. Quoi.
Alors tout commence en 1944.
En mai 44, si je peux dire. Le jour exact, je vais te le dire, parce que je l'ai sous les yeux. Moi, j'ai pris mes fiches, c'est le 20 mai 44, voilà. À Sheffield. Qui est une ville minière et industrielle. De l'Angleterre. Et
c'est formidable quand tu vois ce qui émerge de ces villes minières industrielles d'Angleterre. À Newcastle, tu avais les Animals, à Liverpool, tu avais les Beatles, à Sheffield, tu as eu Joe Cocker, c'est quand même.
Voilà. Qui fera d'ailleurs un album plus tard, un sublime album qui s'appelle Sheffield Steel. Voilà, oui. Parce qu'on va pas le passer. On va pas passer un extrait de cet album-là. Donc,
il y a trop de disques pour qu'on passe un extrait de chaque disque.
Voilà. Et donc voilà, c'est un monsieur qui apparemment avait un frère aîné. Avec qui il a joué assez. Enfin, le frère aîné l'a embauché dans un groupe. Et Joe Cooker, dans ses influences, parle de Ray Charles, bien sûr. Bon, la parenté est très nette. Et aussi de groupe de Skiffle.
Exactement. Ouais.
Voilà. Qui marchait très, très bien à l'époque.
Juste pour les néophytes, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le Skiffle?
Alors, le Skiffle, c'était un style musical qui était avant le rock'n'roll en Angleterre, qui était inspiré du folk américain, alors principalement des morceaux de Woody Guthrie, de Pete Seeger, de Led Billy, et qui était joué sur des guitares acoustiques et des instruments de fortune à fond la caisse. Et c'est vrai que c'est un style, c'est un micro-style en fait, mais qui a influencé énormément de gens. Jimmy Page, tu vois les premières images de Jimmy Page en vidéo, il a 10 ans et il joue du skiffle à la télé anglaise. T'as John Lennon qui avait un groupe qui s'appelait les Quarrymen, où il a rencontré McCartney et ils avaient un répertoire de skiffle.
Je crois savoir que Johnny Winter a commencé comme ça au milieu des années 50.
Alors ce qui est assez drôle, c'est que Joe Cocker, avant d'avoir une influence Ray Charles, pendant un certain temps, il était influencé par le skiffle et par la country, et il a monté un groupe qui s'appelait alors dès son adolescence, qui s'appelait Vance Arnold and the Avengers. Et Vance Arnold, le Arnold, s'était inspiré d'Eddie Arnold, le chanteur country. Et ses influences étaient majoritairement country. Et puis au fur et à mesure du temps, il a sa voix un petit peu muée. Et avec ce petit groupe de fortune dans lequel il était batteur, il a joué ce qu'ont fait aussi des artistes français chez nous. Hein, c'était le cas d'Alain Mashum notamment. Il a joué dans les bases américaines qui étaient en Angleterre. Ah oui. Et au contact des Noirs américains, il a découvert le blues. Et le rhythm and blues et Ray Charles, et puis là ça a été finalement la révélation, l'explosion.
Pour juste faire un lien entre le blues et le skiffle, tu retrouves, si je ne m'abuse, dans un des films produits par Scorsese sur le blues, un des sept.
Ouais. Red, White and Blues.
Tu as, ça doit être Denis Lonegan, qui est là, qui est interviewé, et on voit la parentalité, c'est-à-dire qu'on voit bien ces gens-là qui disent, après t'as l'arrivée de gens comme Alexis Corner, qui ont amené plein de choses, des gens comme John Mayer, etc. Et tu vois un peu tout ce lien qui se fait par le biais du skiffle.
Et pour ceux qui voudraient découvrir une version un peu moderne du skiffle, alors il y a la discographie de Denis Donegan qui est très sympa, qui a même influencé des gens chez nous comme Johnny Hallyday, qui de temps en temps, il n'y a pas très longtemps, a repris Dead or Alive de Denis Donegan en concert.
Ouais, mais ça compte pas, parce que Johnny Hallyday, il se laisse influencer par plein de gens.
Non, mais bon, je te ferai une spéciale
Johnny. Même par notre ami Manu Lanvin, figure-toi.
Non, je te ferai une spéciale Johnny. mais une version moderne, il y a Van Morrison qui a sorti il y a une quinzaine d'années un disque avec Lonnie Donegan, avec Chris Barber en trio, c'est les Skiffle Sessions, et il revisite tout ce répertoire, Goodnight Irene, Rock Alline, etc., etc.
Notre ami Alain Angelbert qui écoute toujours attentivement Suite au Chicago nous vous confirme, le roi du skiffle, Lonegan. Voilà. Une petite demande de précision également de la part de l'ami Jalbi pour Laurent. Il est né le 20 mai 44, mais à quelle heure?
Je suis en train de lancer une recherche. Je répondrai dès que j'aurai la réponse.
Et alors, donc après ces expériences sur les bases américaines, il s'est retrouvé à une période où il y avait un peu une explosion de la scène anglaise et on avait découvert les groupes de Liverpool, les Beatles avaient quand même commencé à enregistrer. Et lui, il a fait un premier single qui a pas marché du tout en 64, je crois. Un single avec en face A I Cry Instead des Beatles et en face B, si je ne me trompe pas, George on My Mind What I Said Red Charles.
Donc, ah oui, carrément.
C'était déjà là. Et il a attendu quelques années à écluser un petit peu les bars, les clubs, avant d'être découvert par un producteur qui était aussi le producteur de Procol Harum qui s'appelait Denis Cordell. Et Denis Cordell, je ne me souviens plus exactement, lui a fait enregistrer son fabuleux premier disque avec, bien sûr, alors il y a Joe Cocker qui chante, il y a son groupe de basse qui est le Grease Band, dans lequel on trouve Chris Tainton qui l'accompagnera longtemps, qui accompagne Clapton également. Mmh. Et puis des invités de luxe faramineux comme Dave Mason de Traffic ou Stevie Winwood à l'orgue et puis bien sûr Jimmy Page à la guitare. Et avec ce premier album, il a son premier succès, With a Little Help from My Friend, qui est une adaptation d'une chanson des Beatles qui l'a complètement transfiguré. Et voilà, quoi. Je pense qu'on peut écouter un extrait de ce premier disque, non ?
Ouais, complètement. Feeling alright, Monsieur Joe Cocker, nous sommes en 1969.
Left you on my own, so
Feeling Alright, ça se passe de traduction.
Ça, hein, dépouille, ça dépouille sa mère quand même.
Il
hein.
Y a un groove au piano là-dessus. Ah,
c'est juste énorme.
Et ouais, et ouais. Voilà. Monsieur et Joe Cocker.
Ce bon... premier album de Joe Cocker qui s'appelle What With a Little For My Friend de Joe Cocker.
Exactement.
C'est une merveille absolue. C'est, je crois qu'il a. Il n'avait pas réussi à faire vraiment mieux depuis. C'est un album où tu trouves des versions de chansons de Bob Dylan, ben des Beatles, effectivement.
Le tube du Greaseband, nous dit ouais, notre ami Jalbi.
Exactement, ouais. Greaseband qui était son groupe de
On
départ.
On fait l'émission
était...
à 4 aujourd'hui. Jean-Christophe, ouais, Jalbi, Laurent, viens, Marco viens, viens. Et Jalbi.
Alors, juste parce que je lis mes petites notes, enfin je lis le truc de Wikipédia que j'ai imprimé parce que j'ai fait ça à la vite ce matin.
Wikipédia.
N'oubliez pas de donner d'ailleurs 2 euros.
Oui. Il paraît que si tout le monde donne 2 euros, en 2 heures, ils ne doivent plus rien.
Voilà, c'est réglé. Voilà. Et alors, je lis un truc qui me fait plier de rire. C'est en 63, ils obtiennent, donc son tout premier groupe, quand ils jouent avec Vince Arnold and the Avengers, ils obtiennent leur première représentation marquante en apportant leur soutien aux Rolling Stones à la salle des fêtes de Sheffield.
Wow, génial.
Et tu vois, à la même époque, en France, c'était Adamo qui faisait la première partie des Stones et Pierre Vassiliou en 65.
T'es sûr que c'est pas le contraire?
Oui, et il est fort possible que ce soit.
Il me semble que c'est plutôt le contraire. Genre, je crois même que, par exemple, les Beatles ont dû faire la première partie de Sylvie Vartan.
Oui, tout à fait. Non, en fait, ils pas vraiment. Tous ces gens-là faisaient la première partie de Trini Lopez,
exact.
Qui était une énorme vedette à l'époque.
Exact.
Et t'avais d'abord les Beatles, excellent. Après Sylvie Vartan, et après Trini Lopez, qui était une vedette mondiale quand même.
Et. Il faut savoir quand même qu'il y a une guitare. Il existe une Fender Trini Lopez.
C'est pas une Epiphone, c'est avec le double machin.
Ouais, mais je crois que c'est une Fender, si je dis pas de bêtises, ouais, avec c'est une Fender avec le manche Fender, avec la tête Fender.
Sous
toute réserve.
Les garçons, dès que je fais de la télé, je vous invite.
Donc voilà, leur premier album de Joe Cocker, succès monumental numéro 1 en Angleterre. Et puis cet album lui donne une certaine notoriété qui commence à s'étendre un petit peu outre-Atlantique, qui fait un peu le buzz. Et puis il faut dire que Denny Cordell, qui est un super producteur, fait très bien le boulot. Et puis à un moment, en 69 aux États-Unis, commence à se monter une petite chouille de voisins, je crois, un petit festival à Bethel, ou plus exactement à Woodstock. Et je crois que Denny Cordell, à force de persuasion, réussit à faire programmer Joe Cocker, qui était totalement inconnu.
Tout à fait.
Et puis là, tout le monde connaît l'histoire. C'est Joe Cocker arrive à Woodstock en hélicoptère, en pesant 45 kilos, avec un t-shirt bariolé et des boots avec des étoiles. Et puis, grosso modo, il atomise le festival, c'est-à-dire qu'il fait certainement la plus grande performance scénique filmée qu'on ait jamais vue en chantant Little Help From My Friend. Il fait littéralement exploser le festival et du coup, il devient une star aux États-Unis. Hein.
Oui. Voilà. Je suis en train de lire une partie de. Enfin, toi, tu la connais, mais la setlist. Something's coming home, let's go get stoned.
I shall be released. I shall be released just like a woman.
Enfin, et puis, cette version de With a Little Help from My Friends qui figure dans le film original, la première version. Et qui, moi, chaque fois que je l'écoute et que je le vois, ça m'arrache des larmes parce que c'est juste énorme.
C'est juste fantastique. Ouais. Voilà. C'est juste fantastique. Après Woodstock, une forte pression pour que Joe Cocker enregistre son deuxième disque. Et Joe Cocker, il y a un problème à un moment donné avec le Greaseband. Il se sépare du Greaseband, il se retrouve sans groupe, sans musicien, etc. pendant les sessions de ce deuxième disque. Et pendant les sessions de ce deuxième disque, il rencontre quelqu'un de fondamental. Qui est le pianiste, chanteur, guitariste, compositeur absolument génial, qui est Léon Russell. Et Léon Russell lui présente tout un gang de musiciens, alors des gens comme Carl Riddle, des gens comme Don Preston, des musiciens de Tulsa, Oklahoma, les musiciens de Delaney and Bonnie, qu'on retrouve sur le premier disque d'Eric Clapton, qu'on retrouve
après
sur
Gigi Day, qui ont collaboré avec Eric Clapton,
qui ont fondé grosso modo le rock sudiste, quoi. Et avec ces personnes-là, il enregistre un deuxième album qui s'appelle Cocker, deuxième album superbe, presque aussi bien que le premier également. Et sur ce deuxième album Cocker, on trouve les reprises des Beatles, She Came In Through The Bathroom Window, Bird On The Wire de Leonard Cohen. On retrouve des titres fantastiques.
Donc, juste sur la fin de Greaseband, en fait, la petite anecdote que tu racontais, Jean-Christophe, c'est que en fait, il a pas envie de s'embarquer dans une autre tournée américaine.
Attends,
il est un peu fatigué.
Je vais te dire après.
Ah, je croyais que. Ben non, mais c'est parce que.
On prend au montage, les garçons.
Ben si, parce que c'est là qu'il décide de Greaseband.
C'est ça. Il avait tellement tourné que tout le monde était épuisé. Joe Cocker, le premier, il voulait pas s'embarquer dans une autre tournée américaine. Et finalement, on lui a dit, grosso modo, à l'époque, il avait des choses qui avaient été signées, que si jamais il refusait d'honorer ses engagements, il ne pourrait plus jamais de sa vie jouer aux États-Unis à cause du puissant syndicat des musiciens. Et à ce moment-là, il s'est tourné vers son copain Léon Russell, qui lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais te trouver des musiciens. Mm-hmm. qui en deux jours, en jouant du téléphone, et je sais pas trop comment on faisait à l'époque, c'était même pas des mails, a réussi à trouver une dizaine de musiciens parmi les meilleurs musiciens qui soient. Ils sont embarqués pour une semaine de répète. Au bout d'une semaine de répète, ils sont partis faire la tournée Mad Dogs Englishmen.
Ils auraient pu faire comme certains, arriver aux États-Unis, payer un groupe américain à rien foutre et venir avec leurs propres musiciens. Ça s'est fait beaucoup, ça. Ouais. Il y avait parfois double cachet.
Pour ces raisons-là, ouais.
Mais enfin, quand tu vois le groupe qui a été monté et que tu regardes un peu les individualités, dis que ça valait le coup quand même. Carl Radon, qui a été le bassiste de Derek and the Dominos et de Clapton. Ouais. Jim Gordon, qui a été le batteur de Derek and the Dominos. Jim Keltner, qui est encore un des meilleurs batteurs actuels au monde.
Ouais,
qui joue,
meilleur batteur de la bonne musique.
Avec un Steve Gadd. Enfin,
Bobby Keys, le saxophoniste
des Stones. Jim Price, qui a aussi tourné avec les Stones. Leon Russell, n'en parlons pas. J'en oublie certainement.
Il n'y a plus beaucoup de place pour Sylvie Vartan.
Pas vraiment, si tu veux. Quoi. Donc, voilà.
Bon, alors, tout ça pour te dire que sur le deuxième disque, on va reparler de Mad Dogs après, parce qu'on passera un extrait de l'album légendaire Mad Dogs Englishmen. Mais sur le deuxième disque, il y a un titre qui a été... il faut savoir que, bon, voilà, Joe Cocker avait fait sa fantastique interprétation de Woodstock, et pendant qu'il enregistrait ses sessions, il a eu la chance d'avoir la visite de deux Beatles en la personne de George Harrison et Paul McCartney. Et George Harrison et Paul McCartney étaient en train de préparer Abbey Road, qui n'était pas encore sorti, parce que tu connais l'histoire, Let It Be est sorti après Abbey Road, alors qu'Abbey Road avait été enregistré avant. Ils étaient en train de préparer Abbey Road, et en préparant Abbey Road, ils ont trouvé des chansons qui pouvaient être chantées par Joe Cocker, et ce jour-là, ils ont offert Something, la belle chanson de George Harrison, qui a été chantée par Joe Cocker avant les Beatles. Ils lui ont offert également
She Came In Through The Bathroom Window
de McCartney. Mm-hmm. Et McCartney a proposé à Joe Cocker une troisième chanson. Et Joe Cocker l'a chantée. Il a trouvé que sa version était à chier, il l'a pas mis sur son disque. Et cette chanson, c'est Let It Be. Alors, si tu peux la diffuser, Marco. Ouais,
elle est en bonus track. En
elle est en bonus track, oui. Voilà. Si tu peux la diffuser, parce qu'elle est elle a apparu au milieu des années 90, comme ça. Je pense qu'il vaut mieux que les auditeurs se fassent leur idée sur le fait de savoir si Joe Cocker donne une version à chier de Let It Be, comme il l'a dit.
Juste avant, j'ai une annonce à faire. Si Paul McCartney, un jour, a l'intention de me filmer une chanson, c'est quand il veut.
Il n'y a pas de problème.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hours of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree there will be an answer. Let it be. Although they may be parted, there's still a chance that they may see there will be an answer. Let it be. Yeah.
night is cloudy. There's still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Yeah, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary come to me, speaking words of wisdom. Let it be. Oh, let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be.
On est ensemble à l'écoute du 666 Sweet Home Chicago numéro 972 avec Joe Cooker, mais surtout avec dans le studio les amis Laurent Subrac et Jean-Christophe Panucco. Merci pour ce gros gros plaisir. Elle déchire cette version.
Ah, je trouve aussi, moi.
Elle déchire. C'est...
Moi, je la connaissais pas.
Moi non plus.
Comme quoi, je peux faire des chroniques sur des choses que je ne connais absolument pas.
Mais qui a tous les albums de Joe Cooker, je veux dire, à part Jean-Christophe?
Ah, non, il manque un live.
Il manque un live, il m'a dit. Ceci dit, il a deux versions de Night Calls, hein, quand même.
Il a fait. Ah oui, t'as la version américaine et la version.
Non, je suis vraiment un grand fan de Joe Cooker. Ça fait partie des premières personnes que j'ai écoutées quand j'étais adolescent. Mm-hmm. Mm.
T'as été adolescent, toi?
Ouais, j'étais adolescent.
Je croyais que tu l'étais encore.
Ouais, un peu gentil, Marco.
Un peu quelque part. Bon, mais je peux, enfin, juste, je pense qu'il faut, faut toujours être un peu ado pour écouter la musique en permanence.
Ça nous garde, on est des grands enfants.
Voilà, il y a toujours un côté enfantin. Et,
exactement.
Alors, on a écouté Feeling Alright, on a écouté Let It Be, et puis je crois qu'on s'en va vers un putain d'album mythique.
Ah oui, alors, donc on en était à la fameuse tournée Mad Dogs Englishmen. Alors, voilà, on dit en une semaine, Léon Russell. Alors, Léon Russell, qui est un chanteur, compositeur génial, qui a joué avec les plus grandes stars, etc. Bon, moi, j'invite tout le monde à découvrir la géniale discographie de Léon Russell, qui est vraiment fondatrice du Southern Rock.
Qui a longtemps travaillé avec Freddie King à la fin de sa vie.
Travaillé avec Freddie King, qui a travaillé avec tous les plus grands, qui a travaillé avec Gigi Kell, qui a travaillé avec Willie Nelson, et qui à la fois est un grand compositeur, un chanteur avec une voix particulière qu'on aime ou pas, moi j'adore, et puis un super pianiste, un super guitariste.
Et un très beau chapeau.
Et avec un très beau chapeau.
Et une belle barbe.
Donc ça a l'air de rien de dire qu'ils ont en une semaine, parce que voilà, on peut le faire en une semaine, monter un petit groupe et puis un petit répertoire. Ils sont embarqués dans une tournée de deux mois aux États-Unis, Mad Dogs Englishmen, qui est devenu progressivement un truc complètement hors de contrôle, dans la mesure où il y a eu de plus en plus de gens, où les salles étaient de plus en plus grandes et où le succès était, ils étaient soldats partout. Ils ont fait 6 soirs au Fillmore, 6 nuits au Fillmore West pour commencer, et au fur et à mesure ils ont été rejoints par une armada de choristes, une armada de musiciens. Ils se sont retrouvés à la fin 30 sur scène avec Cocker au milieu, avec Léon Russell également, qui joue un peu les maîtres de cérémonie, et qui ont créé, ça a donné lieu à un super double album, Joe Cocker and Mad Dogs Englishmen, oui. Et ça a donné lieu aussi, ça a été le creuset d'une musique qu'on écoute toujours aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que on parlait d'Americana il n'y a pas très longtemps, mais ce mélange de gospel, de soul, de country, de blues, joué par des musiciens de folie qui sont également des chanteurs de folie, ben voilà, on aboutit à une vraie école musicale super, quoi.
Et notamment quand tu regardes les, je ne sais plus sur lequel c'est, parce qu'il y en a trois sur les, tu sais, les DVD Crossroads de Clapton.
De Clapton, oui.
Tu as une interview juste derrière la scène de Derek Trucks et de Suzanne Tedeschi. Alors, je ne sais plus si c'est lui ou elle qui parle. Et il parle justement de ça, c'est-à-dire qu'il parle de cette influence que sont Derek and the Dominos, que sont Delaney and Bunny, que sont tous ces gens-là, et toute cette mouvance-là. Et quand tu écoutes maintenant Derek Trucks et avec Suzanne Tedeschi, tu sens vraiment ça. Alors, il y a des moments c'est plus rock, il y a des moments c'est plus technique, etc. Mais tu sens vraiment cette espèce d'influence.
Rappelons que Derek Trucks joue ou a joué maintenant, je crois que c'est fini avec les Allman Brothers.
Oui, c'est fini.
Oui. C'était le guitariste d'Old Man pendant
ce qu'il faut savoir
20 ans,
aussi sur Derek Trucks et Suzanne Tedeschi, c'est que ce sont des fans absolus de Mad Dogs Englishmen. Alors, c'est pareil, je recommande à chacun l'achat du double album Mad Dogs Englishmen de Joe Cocker. qui est indispensable, c'est un des plus grands albums live de tous les temps.
Pour les fêtes ?
Ouais, pour les fêtes, et puis on trouve une version de luxe super sympa, voilà. Et ce sont des fans qui sont tellement absolus qu'ils ont joué, il n'y a pas très longtemps, là, début octobre, ils ont organisé un grand concert pour commémorer les 35 ans de Mad Dogs Englishmen, je crois, quelque chose comme ça, où ils ont fait revenir sur scène les survivants, parce qu'il n'y en a plus beaucoup malheureusement, Léon Russell, Mary Clayton, enfin non, la chanteuse, c'était pas Mary Clayton.
Non, c'était Claudia Linière.
Claudia Linière, pardon, Rita Coolidge aussi, qui est devenue une grosse vedette aux États-Unis, plus Don Preston.
Don Preston, qui
est un grand guitariste de studio.
Qui a également fait de très très belles choses sous son nom. Enfin, je me souviens notamment d'un album fin. Ça doit être en 78 par là. Très très grand guitariste.
Très grand guitariste.
Qui a beaucoup joué.
Et donc, ils ont fait un énorme
Sacré
concert.
Sacré blues, le titre de l'album.
Un énorme concert où ils ont joué la totalité de cet album live. Avec différents invités, etc. Et c'était monumental. Donc, si on peut écouter un extrait de cet album.
Parce que depuis le temps qu'on les fait baver avec ce titre, album, Mad Dogs and Englishmen. Alors, c'est la version 2, édition que tu nous apportes là. Ouais. Est-ce qu'il y a des bonus tracks par rapport à la version 33 tours ?
Il y a des super bonus tracks. Il y a notamment une super version de The Wait, qui est une chanson qu'on aime bien avec Laurent.
Ouais, un peu, ouais. On la chante de temps en temps.
Et il y a la version live de With a Little Help from My Friend, qui n'était pas sur l'album. Il y a pas mal de trucs. Darling Be Home Soon aussi, il y a Something, il y a plein de choses. Ouais.
Joe Cocker, Let's Go Get Stoned.
Let's Go Get Stoned.
So, a request from Bobby Keys, Fine Young Man, isn't he? Let's Get Stoned.
Oh,
stop messing up a man's play. I said ain't no harm, my friend, in telling you now. Seems like there's gonna be a little point somewhere, Lydia.
Voilà, extrait de, du double album donc Mad Dogs and Englishmen. On est en train de parcourir chronologiquement la discographie de Joe Cocker. On avait démarré, oh, il avait déjà 25 ans à l'époque de Woodstock, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et bon. Puis Mad Dogs and Englishmen, c'est 70-71, hein, c'est ça. Donc 27 ans, hein, alors, avec moi, une voix d'autre tombe, hein, c'est fantastique quand même.
Je conseille la version vinyle pour la pochette quand même, parce que moi c'est un truc qu'on m'a offert en 79.
Ouais. Ça se déplie et tu vois tout le monde.
Se déplie. Donc là, alors déjà, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain âge, c'est beaucoup plus facile à lire que les CD, parce que c'est écrit plus gros. Mais non, mais c'est magnifique. C'est vraiment. Et en fait, où tu vois, ça représente une affiche de cirque, hein, ni plus ni moins. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu l'ouvres, et puis c'est amusant d'essayer de reconnaître les musiciens qui sont sur la photo, quoi. C'est assez rigolo. Voilà. Mm-hmm. C'est très, 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 très sympa.
Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen, tournée fabuleuse et qui a eu des retombées, j'allais dire, sur ouais. Pas mal de formations américaines qu'on a un petit peu pris de la graine. Et
ouais, absolument. Absolument. Voilà. Et la difficulté, c'est qu'après cette tournée de légende, qui s'est passée dans des conditions très très rock'n'roll quand même, hein, c'est-à-dire que Joe Cocker, dans les interviews qui ont suivi, on dit il y a un film, il y a un super film qui a été fait et qui a été diffusé dans toute l'Europe après. Qui était tourné, Mad Dogs Englishmen, donc qui rend bien compte de l'ambiance de la tournée. Et Joe Cocker dit je suis content qu'il y ait un film, parce que moi je me souviens de la première soirée, je me souviens de la dernière à Los Angeles, mais entre les deux, j'ai plus aucun souvenir. Plus aucun souvenir, parce qu'à l'époque, visiblement, tout le monde carburait avec beaucoup d'alcool, et Cocker avait la particularité de prendre énormément de cocaïne, et puis pour pouvoir dormir, la légende dit que Léon Russell lui fournissait du tranquillisant pour rhinocéros. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, ils étaient clairement dans un état proche de l'Ohio, ce qui fait que la descente a été un peu difficile, parce que Cocker, qui était déjà épuisé avant cette tournée-là, qui voulait pas la faire, s'est retrouvé à la faire dans des conditions impossibles, et quand il est rentré, il a eu une vraie descente, c'est-à-dire clairement une dépression. Il est retourné chez ses parents, il s'est enfermé chez ses parents, où il ne voyait personne, il ne sortait pas. Il a eu une période où il carburait encore un peu à l'héroïne, et puis il a fait le tour de l'Angleterre dans un van, apparemment. Ce qui fait que pendant deux, trois bonnes années, on n'a pas eu du tout une nouvelle de lui, et ça a été un des premiers passages à vide de sa carrière.
Et c'est là qu'il a pris un sérieux coup de vieux, parce que quand on regarde des photos de 71 et des photos de 76,
exactement.
On se dit, c'est passé 10 ans, 15 ans, mais non.
Non, pas du tout. C'est... Et c'est à partir de ce moment-là où il s'est mis à porter la barbe, hein, qui était ses caractéristiques, et puis voilà. Alors, pendant cette période, mine de rien, il avait quand même des copains, il avait notamment Chris Tainton qui s'est efforcé de le faire remonter sur scène, et il est remonté sur scène, alors tant bien que mal, parce qu'il était quand même dans un état assez pitoyable à cause des drogues et de l'alcool.
Gros problème d'alcool.
Et ce qui fait qu'il montait sur scène, une fois sur deux, le concert se passait très très mal, il vomissait sur scène, enfin une horreur. Et malgré tout, il a quand même fait quelques concerts sympas avec ce qu'on appelait le Stainton Band, donc c'était un peu la même formule que Mad Dogs Englishmen avec des musiciens moins prestigieux. Et il a sorti un album, Something to Say, qui était moitié en version studio, moitié version live. Et sur cet album, il y a quand même quelques pépites, et notamment pour les fans de blues, moi j'ai retenu une pépite qu'on trouve sur le Live in LA. Je sais pas, tu l'as sous la main.
Ouais, il est calé.
Mais alors, c'est une chanson que tous les fans de blues connaissent très très bien, c'est St. James Infirmary. Pour moi, c'est une des plus belles versions de St. James Infirmary.
Voici celle de Joe Cocker.
Another man like me.